vous êtes au cœur de la nuit vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Le Zoom Info.
Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées selon les chiffres de l'ADEME. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire ce vendredi 29 septembre, on a interviewé Jean Moreau. Il a fondé l'entreprise Phoenix il y a à peu près 10 ans. C'est à la fois une application pour mettre en relation des magasins et des particuliers pour acheter des paniers de produits invendus moins chers. C'est une plateforme en ligne pour permettre aux associations de récupérer des dons de nourriture invendue. Et enfin, si ces aliments invendus n'ont toujours pas trouvé preneur, c'est à leur donner aux animaux via la SPA ou des zoos. Pourtant, à l'origine, Jean Moreau est banquier. Alors pourquoi avoir tout plaqué pour se lancer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ?
Eh bien, la vérité, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très complet, puisqu'il y a à la fois un enjeu environnemental. C'est pas très connu, mais si le gaspillage était un pays, ce serait le troisième contributeur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. La nourriture produite, transportée et qui en fin de chaîne est détruite ou incinérée, elle dégage beaucoup d'impact carbone. Donc on a un gros pilier environnemental. Et évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un pilier social, puisqu'on a un rôle de Robin des Bois. On récupère les invendus chez les usines, dans les magasins, les hypermarchés, les commerces de proximité. Et on les redistribue soit au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à l'aide alimentaire classique, soit dans des paniers anti-gaspillage aux consommateurs. Donc on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs fragiles.
L'application Phoenix a été téléchargée plus de 5 millions de fois en France, dont les deux tiers en région parisienne. Phoenix vient aussi de lancer un livre de recettes anti-gaspi pour faire des plats avec ce qu'il reste dans notre frigo. Car au niveau du particulier, on estime que c'est 70 euros de courses par mois qui partent à la poubelle, que ce soit des fruits qui pourrissent ou des conserves ouvertes à moitié consommées.
Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me.
Bienvenue dans la nuit sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et je vais vous accompagner toute la nuit pour vous faire écouter en version originale les meilleurs moments de la rédaction. Pour commencer, découvrons un premier extrait.
Je m'appelle Marie Crespe et je suis maîtresse de conférences en droit privé à l'IUT Bordeaux-Montaigne.
Et l'auteur, du coup, de cette BD, Le droit à expliquer aux enfants. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire une BD sur le droit? Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré, donné envie de faire une BD sur le droit, la sensibilisation au droit?
Le droit à la sensibilisation au droit. Merci pour cette formule qui est très, très belle, très juste. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie ? En fait, c'est le constat de la nécessité que tout un chacun connaisse le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun. Alors, de tout un chacun adulte. Et puis évidemment de tout un chacun enfant, je me suis dit mais en fait il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants. Et c'est vrai que dans mes enseignements j'ai constaté ou ressenti en tout cas une certaine parfois opposition au droit, une certaine réticence pardon, des préjugés négatifs et je me suis enfin, il m'est apparu évident qu'une partie de ces opinions, de ces préjugés, pouvait être liée à la méconnaissance du droit et au sentiment d'injustice qui peut découler de l'absence de connaissance des règles quand on se les voit imposer de fait, enfin par la force des choses, puisqu'on vit tous dans le droit. Donc à un moment, elles vont s'appliquer de manière plus sensible, de manière plus forte. Et tout ça a fait que je me suis dit, mais en fait... Ça ne peut pas fonctionner une société comme ça si on n'a pas tous un petit peu une connaissance basique des règles, du système dans lequel on vit. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et puis voilà, je ne sais pas, moi d'abord j'adore les enfants. Et quand j'explique le droit au mien, je me suis dit, bon, et les autres alors comment ils font ? Alors effectivement, il y a pas mal de ressources en ligne, notamment il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour défendre les droits des enfants, ça c'est certain, pour expliquer aussi certains droits. Mais pas le droit en tant que système, pas comme on explique le corps humain aux enfants, pas comme on explique l'univers aux enfants. Et voilà, donc c'est de tout ça que m'est venue l'idée et l'envie de réaliser ce projet.
Et passer par la BD, c'est ce qui vous semblait le plus pédagogue, le plus facile pour sensibiliser du coup au droit ?
Alors le plus, je ne sais pas, en tout cas indispensable, oui, mais pas exclusif, c'est-à-dire que le livre n'est pas exclusivement illustré par des BD, parce qu'il me semblait nécessaire aussi d'avoir des parties où on explique les choses de manière générale, alors que la BD... Alors, certains livres, effectivement, ne passent que par la BD. Mais dans ce cas-là, je trouve ça difficile, ou en tout cas pour les enfants, d'expliquer des choses générales à travers des petits personnages. D'abord, je voulais poser un cadre. Mais effectivement, après ce cadre général, la BD, elle est indispensable pour mettre en situation, pour amuser aussi, parce que le dialogue... créer l'humour, créer les situations, les mises en situation, les répliques, voilà, l'évolution des personnages, etc. Et puis c'est vrai aussi, les enfants aiment les BD. Alors pas que les enfants, en vrai, la BD, le roman graphique est un art qui progresse fondamentalement. Donc voilà, c'était un nécessaire et opportun aussi parce que ça touche et ça parle aux enfants, la BD. Voilà.
Comment vous l'avez imaginé, enfin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? On fonctionne par question, hein, c'est ça?
Oui, le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? C'est un métier, le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
C'est oui un premier socle en fait.
C'est la première étape et effectivement quand j'ai fait ce premier volume, je pensais pas au deuxième volume forcément. J'étais déjà super contente d'avoir mené à bien cette entreprise, cette aventure. Mais en réalité, l'idée de la suite, elle est apparue très vite parce que Ben, je me suis dit, en fait, ça suffit pas. Et puis, plein de lecteurs aussi m'ont dit, mais... Et la suite, c'est pour quand? Et il y a d'autres questions qui se posent. Et j'ai dit, oui, oui. Et donc, et effectivement, très rapidement, peut-être un mois après, j'ai dit, bon, allez, on va faire le deuxième. Enfin, voilà, c'était évident que j'allais passer très vite à la suite. Et la suite, effectivement, après cette première étape, donc vraiment générale, qui pose les bases, ou qui permet de dégrossir, le deuxième livre va effectivement un peu plus dans la technique du droit. Parce qu'on a posé les bases. Donc déjà on est appuyé sur quelque chose d'un peu concret qui nous situe, on n'est plus perdu. Donc c'est vrai que lire le deuxième avant de lire le premier, alors le deuxième n'est pas encore sorti, hein, il va sortir d'ici un mois et demi, mais j'espère que les gens ne vont pas forcément commencer par le deuxième au risque d'être un peu plus perdu ou de trouver ça vraiment un peu difficile, parce qu'effectivement je pars de l'acquis du premier. Et donc les questions du deuxième sont beaucoup plus juridique. Les juristes qui liront, ça leur évoquera des sujets qu'on apprend à la fac de droit, que je ne nomme pas de la même façon, que je n'explique pas de la même façon, mais qui sont exactement ce qu'on apprend en droit. Donc de manière ludique, accessible aux enfants, voilà, il n'y a pas de... J'emploie pas les mots barbares du droit. Mais c'est pas grave, l'étiquette, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'expliquer le contenu, et le contenu, il est là, ouais.
Alors, vous avez travaillé avec Clara Lang pour le volume 1, donc. Comment s'est passé le travail, enfin, un duo, puisque, du coup, vous êtes pas du tout dans cet univers. Comment ça s'est goupillé, tout ça?
C'est une aventure, hein. C'est une aventure. Chacune a fait un pari assez grand, hein, parce qu'on se connaissait pas, parce que ce qu'on devait créer n'existait pas, donc pas de repères, pas vraiment de modèle. C'était aussi une liberté d'ailleurs, hein, d'avoir un boulevard pour se dire ok, on crée ce qu'on veut, ce qui nous semble pertinent. Mais donc n'empêche que c'était un pari. Et puis parce que c'était une première pour toutes les deux. Moi, j'avais jamais fait de livre avec des illustrations. Clara, elle avait, je crois, jamais vraiment travaillé comme ça avec un auteur. Voilà, donc c'était un vrai pari. Et on a eu de la chance. On est deux jeunes femmes, les plus jeunes que moi, mais deux jeunes femmes intelligentes. Elle dessine très bien. Elle est travailleuse aussi, parce qu'il a fallu vraiment, vraiment travailler. Et elle n'a pas eu peur. Bah oui, on reprend la copie quand ça ne va pas. Donc oui, parfois c'est aussi un peu fatigant. On se dit stop, en fait, on voudrait arrêter. Mais non, on va continuer jusqu'à ce qu'on estime de mieux. Donc c'est un travail long, exigeant et en même temps gratifiant et qui fait sens. C'est-à-dire que Clara, elle s'est lancée dans ce projet aussi parce que le sujet lui parlait, parce que c'est un sujet qui a une utilité, un but social ou d'intérêt général, ou de changer un peu les choses, alors de manière modeste certes, mais n'empêche qu'on est toutes les deux convaincues que la société ou le monde tournerait un petit peu mieux, plus rond, s'il y avait des connaissances un peu plus partagées en ce qui concerne le droit.
Et ce projet, il vous a pris combien de temps à partir du moment où vous avez un peu donné le feu vert et jusqu'à l'édition de la BD?
Longtemps. À peu près 2 ans. Mmh. Ouais, 2 ans. Alors, on n'a pas travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. Il y a eu des périodes de stand-by parce que l'une ou l'autre, on était prise par autre chose. Puis parce qu'aussi, il fallait laisser le temps au temps. Créer un concept, créer un livre de A à Z dans son organisation, dans toute sa dimension pédagogique. Voilà, c'était laisser le temps au temps, laisser le temps de respirer, de créer, de trouver. Voilà, mais le deuxième volume, pas 2 ans. Moi, voilà, maintenant que je savais plus comment faire le livre, quels étaient ses ingrédients, etc., comment ça marche aussi, comment on crée un livre, moi, je dors avec, je mange avec, je bois avec. Donc, il y a eu un moment, en fait, j'avais besoin d'être délivrée de ça aussi. Il fallait que ça s'arrête, il fallait passer à autre chose. Donc, quand j'ai commencé le deuxième, j'ai proposé à Clara, qui, elle, était overbookée sur plusieurs mois à venir. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, mais comme je veux le faire maintenant, bah, j'y vais. Mais avec l'illustratrice Camouche, donc, qui fait le volume 2, dès le début, j'ai dit, moi, si on le fait ensemble, voilà, il faudra qu'il y ait un timing pas trop long. Voilà, alors c'est pareil, hein, tout ça c'est des discussions, on s'entend, et à chaque fois j'ai eu de la chance sur les deux volumes, vraiment c'est des personnes, des illustratrices de qualité très professionnelles. Donc c'est chouette, c'est de la chance.
Je reviens un peu sur le droit expliqué aux enfants. Quel est pour vous l'intérêt d'apprendre si jeune, le droit d'apprendre si jeune, ces bases de droit pour la suite?
Alors déjà c'est un petit défi, voilà, parce que on le fait pas, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on part du principe que c'est pas possible en fait, on peut pas apprendre le droit aux enfants, donc il y a un petit côté défi que je trouve stimulant et intéressant, mais un défi pour un défi, bon, pas trop d'intérêt, mais un défi qui fait sens encore une fois. Et donc quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? Mais c'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses aux enfants. Quand on compare ce qu'on leur transmet comme connaissance aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait leur apprendre aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande de savoir, mais pas le droit. C'est pas possible. Donc en réalité, ils sont membres actuels de la société, ils ont des droits en tant que personne, ils sont de futurs citoyens, ils sont à un âge où on apprend les règles du vivre ensemble, et donc, alors le vivre ensemble ne passe pas que par le droit, mais en partie par le droit, et précisément, qu'est-ce qui passe par le droit? Qu'est-ce qui ne relève pas du droit? Quelles sont les limites du droit? Tout ça me semble mais indispensable de le savoir, alors à hauteur d'enfant, mais précisément, on pose des bases, on sème des petites graines, pour tout le monde, déjà. Comme ça, après, chacun, dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va étoffer laisser grandir cette petite graine, ou étoffer les connaissances qu'il va pouvoir acquérir et les greffer à partir de cette structure que tout le monde aura pu avoir. Parce que c'est effectivement mon idée, c'est que la connaissance du droit soit aussi diffuse que n'importe quel autre savoir qu'on estime logique que les enfants aient. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire, une éducation populaire pour tout le monde. Voilà.
Et comment on peut parler du droit avec ses enfants si on n'a pas forcément la BD? Comment dans la vie de tous les jours est-ce qu'on peut que vous disiez planter ces petites graines?
Alors, dans la vie de tous les jours c'est difficile parce que les adultes qui entourent les enfants, quels qu'ils soient, n'ont pas forcément les connaissances en droit. Donc c'est très difficile en réalité. Mais bon, je me dis que si la génération qui vient avait les connaissances, en réalité ça n'arriverait plus, et les adultes de demain pourraient déjà discuter avec leurs propres enfants. Mais alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de connaissances en droit, c'est très difficile d'enseigner ou de discuter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors il faut se renseigner soi-même. Il y a des livres, il y a beaucoup de sites, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour rendre accessible la connaissance du droit, mais ça reste difficile. Alors oui, c'est vrai, je sais pas trop comment on pourrait enseigner le droit quand on ne le connaît pas, c'est vrai.
Peut-être finalement lire
alors, un état adulte, les adultes qui le lisent apprécient, oui. C'est très simple, mais beaucoup m'ont dit, mais on apprend des choses. Et on en discute avec nos enfants. Ça ressort quasiment systématiquement, les discussions, les échanges. Donc c'est un moment aussi de partage dans la famille, entre amis, à l'école, au centre d'animation, peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est moi, je ne conçois pas l'enseignement comme déverser un savoir, mais plutôt comme appeler les gens, éveiller les gens à se poser des questions. Voilà. En fait, c'est ça l'intérêt. Et peut-être pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, comment enseigner le droit dans la vie de tous les jours? En se posant des questions. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ça ou pas? Comment savoir s'il a le droit? Est-ce que c'est juste ou pas juste? Mais qu'est-ce que ça veut dire juste? Est-ce que le droit définit ce qui est juste? Comment il... Voilà. En vrai, je pense que c'est plus ça qu'il faut apprendre à avoir comme réflexe, à se poser des questions, à se donner le droit de poser des questions. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu dans la culture française, on est un peu timide ou complexé, on a peur de poser les mauvaises questions, de dire des bêtises, mais en fait, on ne peut pas dire de bêtises. On dit quelque chose qui est juste ou qui est faux, Mais c'est pas grave. En fait, c'est gagnant-gagnant dès lors qu'on le dit, parce qu'on va l'éprouver, parce qu'on va le confronter. Et donc, déjà, si on se pose des questions, c'est positif. Et d'avoir la réponse, c'est très bien. Parfois, il n'y a même pas de réponse. Et ça aussi, apprendre que dans la vie, parfois, il n'y a pas toujours de réponse, que ce n'est pas très clair. Et que le droit, notamment, va à l'inverse d'un présupposé qu'on lui attribue. Si on pense que c'est carré, qu'il y a réponse à tout, ben non, dans plein de cas, il n'y a pas forcément de réponse précise. Est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il n'y ait pas de réponse précise ? Ça aussi, c'est une autre question. Hein. Voilà, donc la différence entre ce qui relève de l'opinion ou ce qui relève de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en droit ? C'est une bonne question, mais voilà. Après, donc on n'a pas forcément les réponses, mais peut-être déjà d'apprendre à se poser les questions, oui.
Et une dernière question, est-ce que un tome 3 est envisageable ou pas du coup, parce que vous étiez parti pour faire un seul tome et finalement vous continuez?
Il y a largement la place de faire un tome 3, ça c'est certain. Est-ce que j'ai envie de faire un tome 3, c'est certain aussi. Après voilà, quand, je sais pas. Et est-ce qu'il y aurait un tome 4, ça je suis un peu moins certaine. C'est-à-dire que autant j'ai déjà les idées pour le tome 3, autant après peut-être qu'une fois qu'on a fait le tour avec ce format-là et qu'on a fait le tour des questions principales d'une introduction au droit, peut-être qu'il sera temps de passer à un autre format ou à un autre sujet en particulier, je sais pas. En tout cas, le tome 3, j'espère, oui.
Si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. Baby, I love. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Oh. Et si je te dis que je t'aime, tu vas me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love. Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne veux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez, donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait, on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Allez, prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, I love, I love, I love, I love.
c'est le moment sur Vibration où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Des placements de produits douteux sur les réseaux sociaux, des incitations à faire des investissements risqués en bourse. Ces derniers mois, les influenceurs sont accusés d'escroquerie auprès de leur communauté. Récemment, le rappeur Booba à travers Twitter ou encore plusieurs enquêtes journalistiques ont encore mis en lumière ces pratiques, notamment pour ce qui concerne l'agence Shauna Evans dirigée par Magali Berda. Si les 18-25 ans sont les cibles principales via TikTok, Instagram ou Snapchat, ils donnent assez peu de crédit aux influenceurs et aux produits qu'ils proposent. C'est ce que montre notamment une enquête menée par Vox, une plateforme spécialisée dans la stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. Et je reçois d'ailleurs Alan Guenassia, son fondateur. Avec Vox, vous avez justement mené une enquête pour essayer de savoir si les influenceurs sont vraiment influents, ou du moins, est-ce qu'ils le sont auprès des jeunes, puisqu'on va dire que c'est la cible majoritaire. Le constat, il est assez partagé, c'est-à-dire que oui, forcément, les jeunes suivent des influenceurs, mais ils sont pas forcément influencés, en tout cas en totalité, par ces influenceurs.
En fait, nous, on a été les premiers à se poser la question, parce que c'est un petit peu notre business model sur ce qu'on fait. Et on a voulu demander aux jeunes, donc on a interrogé plus de 1000 jeunes de la génération Z, c'est les 18-25 ans, et on leur a posé une série de questions. Dans ces questions, on a voulu savoir ce qu'ils pensaient des influenceurs. Donc en fait, on peut penser que les jeunes sont un peu dupes par rapport justement à tout ce qui se dit sur les réseaux, mais au final, c'est pas vraiment le cas. Nous, ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est qu'ils font très attention à leur image, qu'ils font très attention aussi à ce qu'ils regardent, et ils sont pas dupes. Ils savent que la majorité des influenceurs, quand ils parlent d'un produit, c'est souvent contre une rémunération financière. Et à la question « Est-ce que tu accordes du crédit à un influenceur ?», ils sont en majorité, en tout cas 80% sur notre étude, à répondre qu'ils n'accordent pas de crédit sur leur avis sur des produits. Donc, ils savent reconnaître les produits sponsorisés, ils savent reconnaître les placements. Donc, attention, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe sur les réseaux, oui. Est-ce qu'ils arrivent à reconnaître une publicité, oui. Après, ils sont en majorité à les regarder quand même.
Parce que avec les affaires qui sont sorties ces derniers temps, il y a l'inquiétude forcément de se dire, voilà, moi je suis père de famille, je sais que mes enfants sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que forcément les influenceurs vont entre guillemets profiter d'une certaine naïveté liée à la jeunesse? Est-ce que c'est une vraie stratégie ça, en tout cas de la part de certains influenceurs ou de certaines marques qui passent par des influenceurs, d'aller toucher un jeune public et de se dire voilà, c'est une manière de cibler un public sur lequel en tout cas ce mécanisme là il a plus de chances de marcher que via un autre réseau ou un autre modèle de publicité.
À chaque fois qu'il y a un nouveau format publicitaire qui sort, au début on cliquait sur les pubs Google, à un moment donné on croyait vraiment que la lessive qui passait à la télé elle était magique. En fait, il y a cet effet sur à chaque fois dans le développement des nouveaux formats sur le marketing, et le format influenceur en fait partie. Je pense qu'au début, on était en majorité à pas forcément identifier ce contenu comme un contenu sponsorisé. D'ailleurs, il y avait aucune mention qui était obligatoire lorsqu'un influenceur parlait d'un produit contre une rémunération. Il y avait des taux d'engagement qui étaient extrêmement élevés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens comprennent que c'est une publicité. Les marques continuent d'exploiter justement les audiences des influenceurs parce que c'est un moyen extraordinaire d'être vu par une très grande audience. Maintenant, les marques se dirigent plutôt vers des micro-influenceurs qui ont une thématique bien précise et toucher peut-être moins de personnes, mais fidéliser et engager un peu plus à travers justement ce format un peu plus micro, avec un expert qui va parler d'un produit.
Avec ce qui se passe justement là ces derniers jours, ces dernières semaines, avec les révélations qui ont été faites, alors d'abord par le rappeur Booba qui a mis ça en lumière, mais aussi par...
à remettre les pendules à l'heure, ouais. On a été les premiers à en parler. Donc peut-être
avant
que
Booba
est tombé sur notre étude et qu'après il s'est dit « Ok, comment je fais pour remplir mon Stade de France ?» Tiens, et si on parlait des influenceurs ?
En tout cas, on peut pas nier que ces tweets et les enquêtes ensuite journalistiques ont mené à une mise en lumière de ce milieu-là. Est-ce que vous ressentez depuis tout ça une évolution au niveau général, on va dire des consciences, que il se passait quelque chose au niveau des influenceurs et que il va falloir être plus vigilant vis-à-vis de cette question-là?
Vigilant, ça dépend vis-à-vis de qui. Est-ce qu'il faut être vigilant par rapport à ce que les influenceurs postent? C'est plutôt la responsabilité des marques. Nous, on sait, et c'est aussi la raison d'être de notre projet, qu'aujourd'hui, les marques ont investi beaucoup d'argent dans les audiences des influenceurs et que celle-ci perd un peu de sa valeur parce que la crédibilité a été un petit peu mise à mal ces derniers temps, et Booba a fait un vrai headshot sur Shauna Evans et Magali Berda. Donc ça, évidemment, ça a fait un effet sur tout le secteur. C'est pour ça que nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, les marques doivent réinvestir sur leur propre contenu et Alors, récupérer ce format influenceur, le format influenceur, il est extraordinaire parce que finalement, on fait pas de la communication sur un produit, on fait de la communication sur un usage. C'est ça qui fait la force de ce format, c'est qu'au lieu de voir le pack shot, on va voir quelqu'un s'en servir. Nous, notre conviction, c'est que les marques aujourd'hui vont se tourner de plus en plus vers des créateurs de contenu qui vont vendre leur créativité, proposer un contenu justement à une marque et utiliser le produit et pas forcément le poster sur ses réseaux sociaux parce qu'on sait tous que quelqu'un qui voilà, un influenceur qui poste un contenu sponsorisé sur ses réseaux n'a pas forcément voilà de crédibilité, il le fait aussi beaucoup pour gagner de l'argent.
Mais alors ça veut dire que ce qui a été montré ces derniers jours, au final, au vu de l'étude que vous avez faite où le crédit qui est donné par les jeunes n'est pas incroyable, les gens qui ont été informés, c'est au final les personnes qui étaient le moins touchées par ça, c'est-à-dire que on a informé des gens qui n'avaient pas forcément notion que ces choses-là existaient.
Mais bien sûr, tout le monde a conscience que c'est une publicité. De toute façon, de façon légale, l'influenceur doit mentionner que c'est un partenariat. Donc ne pas être conscient à 100% que c'est une publicité, ben nous on leur a posé la question, ils sont en majorité ils le savent que c'est une pub. Donc est-ce que c'est dangereux d'avoir des gens qui disent n'importe quoi sur des produits? Évidemment, si les produits sont dangereux pour la santé, ça l'est. Mais faut aussi quand même donner un petit peu de crédit à l'intelligence des jeunes. Ils savent reconnaître les pubs, ils ont grandi dedans. C'est pas parce qu'un influenceur va se brosser les dents avec du charbon qu'ils vont tous acheter du charbon pour se brosser les dents.
Parce qu'il y a quand même ça, il y a quand même l'idée que on essayait de faire passer en tout cas des produits miracles ou des choses de bonne qualité pour des choses qui étaient parfois produites ou en tout cas on pouvait retrouver un équivalent sur des AliExpress ou des Amazon, alors qu'au final on faisait passer ça pour un truc haut de gamme à travers les partenariats.
Ça s'appelle le dropshipping, c'est-à-dire un marchand qui va acheter sur AliExpress un produit qu'il aura même pas acheté, il va le mettre en vente sur son site et il va le vendre plus cher. Moi, ça me désole un peu d'entendre que le dropshipping, c'est quelque chose de, c'est l'arnaque du siècle. Non, c'est juste le principe du commerce. On achète un produit à un chinois avec une marge qu'on va appliquer dessus pour payer le marketing et on va le revendre plus cher. Donc, en réalité, c'est surtout sur la qualité des produits que les influenceurs doivent faire attention. Pas choisir n'importe quoi. Ça paraît logique. Finalement, si TF1 ou Voltage mettaient une publicité pour un jeu d'argent, il y aurait des mentions légales. Aujourd'hui, c'est un format qui est en train de se structurer. Voilà, c'est la responsabilité du média, donc de l'influenceur, et aussi la responsabilité des marques.
Et alors, justement, est-ce que va y avoir une évolution suite à tout ça pour certains? Et surtout, est-ce que, au-delà du fait qu'ils étaient déjà alertés sur ces questions-là, ils vont être d'autant plus méfiants et faire encore plus attention à ce qui peut être proposé à travers des stories ou des publications Instagram?
Je pense que les marques vont faire attention. De toute façon, le marché se régule tout seul. C'est sûr que les acteurs du marché de l'influence qui ont abusé justement du système et voulu engranger du chiffre d'affaires de façon très rapide, voilà, sont punis. Aujourd'hui, on voit les retombées catastrophiques que peuvent avoir le reportage de complément d'enquête sur le Shona Event et sur tout le business de l'influence. Donc forcément, ça se régule.
Le rapport de l'influenceur Instagram, alors il y en a beaucoup qui sont issus des téléréalités et qui sont ensuite devenus, on va dire, influenceurs à leur propre compte, ou du moins à travers Shona Events. Est-ce qu'on a basculé, entre guillemets, dans une époque où limite les égéries qu'il pouvait y avoir dans les années 90, qui étaient des mannequins ou des gens de la télévision, maintenant, ça passe par ces créneaux-là, c'est-à-dire que les nouvelles égéries en 2020, ce sont en fait les gens de la téléréalité et plus largement les TikTokers, les Instagrammeurs. Ça a vraiment ce rapport d'égérie maintenant, en tout cas par rapport aux marques?
Je pense qu'on a juste ouvert un nouveau moyen de faire du business, que l'audience aujourd'hui peut être détenue par un créateur de contenu qui a 18 ans, porté des cartons et à 25 ans se retrouve propulsé comme influenceur numéro 1 dans le monde. Je pense à Kobe Lam qui est le TikToker le plus connu au monde. Donc ça, évidemment, ça a ouvert une nouvelle façon pour des jeunes, des vieux ou vraiment n'importe qui a vraiment un sujet sur lequel il a envie de, sur lequel il arrive de manière créative à attirer une audience, de pouvoir en faire un business. C'est un peu la suite logique. Aujourd'hui, le contenu se consomme sur un téléphone portable plus que sur un écran de télé. Donc, il y a un nouveau business qui s'est créé. Je pense quand même que le business est arrivé à maturité, qu'aujourd'hui, les marques doivent justement insister sur le fait de pouvoir communiquer elles-mêmes, pas forcément d'investir leur budget marketing sur des influenceurs et des audiences d'influenceurs, mais plutôt essayer de créer du contenu assez dynamique, assez sympa pour que les clients se mettent à suivre en fait les marques directement. Chaque marque est un média aujourd'hui.
Pour ceux qui ne connaissent pas bien, on va dire, ce milieu-là, est-ce que vous pouvez expliquer justement le budget marketing, ou en tout cas à quel point ça représente aujourd'hui les influenceurs pour une grande marque? Est-ce qu'il y a des cellules spécialisées pour les réseaux sociaux et les influenceurs? Qu'est-ce que ça représenterait sur un budget de campagne marketing?
Effectivement, c'est aussi très variable. Il y a des marques qui se sont lancées. Ils ont surfé à fond sur justement le concept des influenceurs. Ils étaient prêts à miser entre 5 et 10 000 euros pour un poste. Et il y a des marques aujourd'hui qui ont explosé. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour eux, c'est plus compliqué. Donc, l'idée, c'est d'arriver à diversifier. On met pas tous ses œufs dans le même panier. on faisait que de l'influ, aujourd'hui ils comprennent qu'il y a d'autres leviers à activer et que les médias traditionnels sont aussi une façon de pouvoir communiquer. Mais dans tous les cas, les DNVB, c'est des Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire un site internet qui va se lancer sur une thématique bien précise. Vous en avez qui vont se lancer sur des coussins avec justement des thés d'oreiller en soie, vous en avez qui vont se lancer sur la lunetterie, vous en avez qui vont se lancer uniquement sur des sacs à main faits de manière biologique. Donc en fait, toutes ces DNVB-là ont surfé sur l'extraordinaire mise en avant que peut donner un influenceur à une marque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour elles parce que les coûts d'acquisition ont augmenté. Pourquoi ? Parce que les influenceurs sont moins crédibles et que le taux d'engagement justement des utilisateurs sur le contenu des influenceurs est plus faible. Donc forcément, ça coûte plus cher de faire de la pub auprès des influenceurs. Et ces marques, ces nouvelles marques récentes, jeunes, qui ont explosé grâce à ça, bah, se retrouvent dans une configuration où ils doivent diversifier leur prise de parole.
Dans votre enquête, vous montrez aussi que les jeunes sont plutôt attentifs à des thématiques, notamment des produits qui sont éco-responsables, avec donc cette volonté d'aller vers un produit qui leur ressemble plus que ce que leur dicte un influenceur. Je fais une collection Batman de figurines ou de comics. Bah forcément, je vais peut-être aller vers un YouTuber qui est spécialisé sur cette thématique-là parce que je me dis, c'est plus intéressant que d'aller toquer à la porte de n'importe quel influenceur et de pas forcément toucher une audience qui serait sensible à ça, alors que là, je vais toucher l'audience directe qui peut être intéressée par ce produit.
Nous, on en est convaincus, on pense que l'authenticité doit être ramenée dans la publicité. Je pense que les années Photoshop sont un petit peu terminées. Aujourd'hui, les gens veulent de la sobriété et c'est juste vraiment d'essayer de pas faire de superflu et ça se ressent dans notre manière de consommer au quotidien. Donc ça doit aussi se ressentir dans nos prises de parole que les marques puissent rester dans cette authenticité. C'est pas la peine de mettre des paillettes partout. L'idée, c'est juste de voir que le produit est cool, qu'il marche bien et qu'on a quelqu'un qui s'en sert et tout simplement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une star de télé-réalité qu'on va voir sous la douche se mettre du shampoing. Non, on veut juste voir quelqu'un s'en servir et expliquer juste son retour sur le produit. Sur la génération Z, pour acheter sur un site écolo, ils sont en majorité à dire qu'ils souhaitent justement dépenser moins d'argent, mais sur un site écolo. Donc voilà, 55% a préféré utiliser un coupon de 150€ au lieu d'un coupon de 180€ pour justement les dépenser sur un site qui fait attention à la cause environnementale.
Et ça se ressent aussi peut-être sur les comportements numériques, c'est-à-dire que forcément, si on va leur proposer du contenu de qualité à travers un compte Instagram ou un compte TikTok, ils vont plutôt favoriser ça parce que au final, ils sont quand même assez lucides et assez attentifs à cette perspective-là.
Je ne sais pas si c'est un lien vraiment. Je pense que vraiment l'utilisation des réseaux sociaux est super pour une marque pour mettre en avant l'usage de son produit. Je pense qu'après, c'est aussi à quel moment on arrive à renforcer l'image de la marque sur le site pour expliquer le positionnement du produit. Je pense pas que l'influenceur fasse vraiment, la manière de communiquer puisse vraiment être axée sur les valeurs du produit. On va plus voir l'usage, comme je vous disais. Voilà, c'est aussi aux consommateurs de se renseigner. Et nous, on leur a posé la question justement à ces jeunes et on leur a demandé si est-ce qu'ils regardent les avis avant d'acheter. Et sans surprise, ils sont 60% à avoir répondu que de toujours s'efforcer de chercher un avis avant d'acheter.
Pour terminer, en revenir sur l'affaire Shauna Evans. Déjà, pourquoi est-ce que Shauna Evans a été aussi important? Est-ce qu'ils ont pris un créneau à un moment où personne se positionnait vraiment? Et surtout, à quel point là ça peut impacter ce modèle-là? Vous en avez un petit peu parlé précédemment, mais à quel point là les affaires qui ont été révélées peut ébranler un petit peu ce modèle et rendre certaines marques plus frileuses dans leur collaboration justement avec cette agence.
C'est évident qu'aujourd'hui les premiers fautifs des abus qui ont eu lieu sur via Shauna Evans sont les marques qui ont investi tout simplement chez Shauna Evans puisque c'était le moteur, l'essence en tout cas du moteur Shauna Evans, c'est absolument les budgets marketing des marques qui les ont utilisés. Et je pense qu'aujourd'hui le retour négatif de ces influenceurs, ça n'a aucun intérêt pour une marque de continuer à utiliser l'image qui a été complètement cassée de ces influenceurs. Alors, on a trop à perdre. C'est tellement cher aujourd'hui d'arriver à faire monter une marque. Il suffit qu'il y ait un influenceur qui en parle pour la faire descendre. Et même si ça génère des ventes, derrière, la réputation de la marque en prend un coup. Donc, c'est évident qu'il va y avoir un avant et un après Shauna Evans.
Mais vous pensez pas aussi que il y a un peu cet effet vague? C'est-à-dire que là, c'est vraiment le tsunami qui est arrivé. Et puis, forcément, la mer va un petit peu se calmer. Est-ce que d'ici quelques mois, voire un an, on va revenir à un statu quo où au final, ça va reprendre et les gens auront oublié un petit peu toute cette affaire.
Je pense que ça met en avant surtout les agences d'influence qui font du bon boulot, surtout qui ont des créateurs qu'ils respectent, à qui ils donnent des produits qu'ils ont testés, des marques qui sont solides. Donc du coup, le marché se régule. Shauna Event a eu des abus, elle doit en payer les pots cassés, c'est normal, c'est toujours comme ça, on fait une erreur, on paye, mais... Il y a des milliers d'agences qui font de l'influence. Magali Berda n'a pas inventé l'influence marketing. Elle l'a démocratisé en recyclant tous les projets, tous les candidats de télé-réalité qui ont d'un coup, en l'espace d'une émission, collecté des audiences extraordinaires. Et elle a su mettre une machine, un bulldozer en place pour générer du cash par rapport à ces audiences qui ont été créées. Mais l'influence marketing, ça date du début du marketing, quoi. C'est l'essence de la publicité.
Très bien. Eh bien, merci Alan Guinassia pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes le fondateur de la plateforme Vox, spécialisée dans la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux.
Bienvenue sur Vibration.
She was just my type, million dollar smile. I'm convinced she knows. Never leave ya.
Bienvenue sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
À l'heure du numérique, il y a plein de nouveaux mots qui arrivent au cœur de la langue française. Des termes parfois un petit peu barbares, il faut l'avouer, comme par exemple le terme NFT. Alors qu'est-ce que c'est les NFT ? Eh bien, lors d'une visite à la Cité des Sciences et de l'Industrie, j'en ai profité pour poser la question à Gabi Bolivar. Il est médiateur au Carrefour Numérique.
Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que ça constitue ? C'est une sorte d'objet numérique, c'est ça qu'on peut acquérir, si j'ai bien compris ?
NFT, c'est un mot anglais qui veut dire non-fungible token, donc jeton non-fungible. Et par jeton, il faut entendre en fait quelque chose qui va être unique, qu'on va pouvoir acheter ou pas, puisqu'il peut y en avoir aussi qui sont gratuits, qui peuvent être cédés, et qui reposent derrière une technologie qu'on appelle la blockchain, qui nous permet de crypter et surtout d'authentifier ce qu'on va acheter. Et c'est quoi qu'on achète ? Ce sont généralement des créations, des œuvres d'art, qui peuvent être pour la plupart à 80% des images, des JPEG, ou voilà, mais ça peut être aussi des sons, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres, mais souvent, la plupart du temps, en format numérique, puisque derrière, il y a une technologie numérique de cryptage.
Et alors, comme n'importe quelle œuvre, elle subit un cours et donc il y a une évaluation dans la vie réelle, en tout cas financière. On estime que tel token ou en tout cas tel objet d'art peut valoir tel ou tel prix en euros ou en dollars.
Alors oui, et on estime, et il y a eu beaucoup d'infos en ce moment sur la bulle, on va dire, des NFT et sur son éclatement, qui en fait subit un peu de manière parallèle ce qu'on peut voir dans le marché de l'art. C'est qu'aujourd'hui, ce sont surtout des gens qui sont attirés par la valeur spéculative qui permet de justement se faire très rapidement plusieurs millions. Mais on se rend compte qu'il y a finalement peu d'amateurs d'art stricto sensus qui s'intéressent aux NFT. Et on voit l'exemple que tout le monde a vu du premier tweet qui avait été vendu à plusieurs millions et qui aujourd'hui vaut une vingtaine de dollars. Et qui en soi n'est pas un objet artistique, à part si, comme toujours, le marché de l'art, c'est ceux qui décident que c'est de l'art ou que c'est à vendre qui fixent le prix.
Alors c'est parfois un peu difficile à comprendre de l'extérieur, parce que on voit par exemple le créateur des smileys qui lui a carrément vendu certaines de ses créations, parce que là on peut dire que c'est devenu un objet culturel. Aujourd'hui tout le monde utilise un smiley parce que tout le monde utilise un téléphone ou un ordinateur. Et à côté de ça, il y a aussi eu des streamers, des youtubeurs qui se sont amusés aussi à faire des NFT, alors souvent pour la bonne cause, mais pour des choses qui ne valent rien en fait. C'est un gribouillis sur Paint qu'ils ont ensuite vendu aux enchères. C'est un peu compliqué parfois pour d'un point de vue extérieur, de se dire est-ce que vraiment cette chose-là elle a vraiment autant de valeur qu'une autre, et justement est-ce qu'il y a un peu une régulation de ce marché?
Oui, non, il n'y a pas trop de régulation de ce marché, mais en fait il s'est un peu autorégulé tout seul, dans le sens où par rapport aux valeurs exponentielles qu'on pouvait donner, aujourd'hui c'est plutôt ça s'est un peu calmé, et les gens ont un peu déchanté. Ils se rendent compte que c'est pas tant pour sa valeur financière, sa valeur d'échange, que les gens veulent créer des NFT, mais plus pour le côté décentralisé et qui enlève des intermédiaires dans l'achat et la vente d'œuvres, puisque à la base c'était surtout pour aider les artistes à pouvoir créer une chanson, créer un média un peu authentique et pouvoir se rapprocher de sa communauté de spectateurs, ses auditeurs, et pourquoi pas surtout il y en a beaucoup qui le voient à la fois dans le monde de la musique. Si on prend l'exemple des Pussy Riot, qui ne font pas que de la musique mais aussi des œuvres d'art, elles permettent aux gens qui achètent leur NFT d'accéder à plus de contenu, accéder à des concerts privés, accéder à une communauté. En fait, faut l'imaginer un peu comme un club avec un accès numérique derrière.
Comment on sécurise ça? Je sais que la question est peut-être un peu complexe, mais j'imagine que on peut pas faire de copies. Ce sont des œuvres uniques, ou en tout cas, si c'est possible, comment on peut essayer d'empêcher ça pour justement que l'œuvre ou en tout cas l'objet soit unique, et que à partir du moment où on est possesseur propriétaire de ce NFT, on puisse pas avoir un ersatz qui se balade comme ça dans la nature.
En fait, c'est vrai qu'on peut, en soi, un NFT, c'est juste une authentification d'un accès à une image. Mais l'image, je peux la recopier, la mettre sur mon ordi autant de fois que je veux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la blockchain, vu que c'est à la fois décentralisé et public, tout le monde peut voir à quelle date et à quel moment la personne a authentifié ce NFT. Et il y a aussi une tendance qui est de pouvoir imprimer, de rendre physique son NFT. Et il y a plusieurs compagnies qui font ça, où du coup tu as un objet matériel avec un code, et un objet, que ce soit en plastique, en bois, en papier, qui rend un peu tangible cette chose immatérielle.
France Football, en tout cas le comité Ballon d'Or, qui a expliqué que au-delà du Ballon d'Or physique, le trophée, il y aura aussi un Ballon d'Or NFT. Quel intérêt pour un joueur de football de posséder un Ballon d'Or NFT? Et est-ce que c'est une manière, on va dire, un peu communicationnelle ou du moins marketing pour une institution comme celle-là, de dire nous aussi on évolue avec notre temps, on propose un NFT. Est-ce que ça peut être accompagné entre guillemets d'une prime, c'est-à-dire vous êtes le meilleur joueur du monde élu par vos pairs, est-ce que cette prime-là, elle peut être intégrée dans le NFT?
En fait, le NFT, il faut le voir aussi comme un... Vu qu'on peut mettre pas mal d'informations dessus dans les deux sens, faut le voir aussi comme un outil de communication qui permet de rapprocher des créateurs ou des sportifs ou des musiciens de sa communauté. Donc, on a déjà vu, ça a été beaucoup fait dans le monde de la F1. Ça permet de rapprocher les pilotes de leurs fans, ça permet de leur offrir du contenu. La NBA s'est beaucoup mis. En fait, il y a une tendance dans les clubs, dans les communautés sportives de faire ça. Donc, effectivement, c'est du marketing, mais ça permet aussi, de manière un peu honnête, de pouvoir se rapprocher des fans. fans.
Pour les fans, ok, mais pour Benzema, là, par exemple, on l'annonce grand favori, lui, entre guillemets, qu'est-ce que ça va lui permettre d'avoir en sa possession un ballon d'or NFT?
Bah, on reste un petit peu dans le côté spéculatif et le côté un peu je t'offre un NFT parce que t'es quelqu'un de connu. Il y a aussi l'influence qui est pour beaucoup. Et on se rend compte aujourd'hui sur les NFT, ils ont beaucoup perdu leur valeur et en fait, la manière de maintenir la valeur, c'est de faire du buzz autour. Il y a même des nouveaux métiers qui se créent un peu comme community manager. T'as des buzz managers qui en fait leur boulot c'est de maintenir le buzz du NFT pour ne pas perdre les investisseurs, c'est-à-dire les gens qu'ils ont achetés, pour pas qu'ils s'écroulent tout de suite. Donc pour garder à la fois quand même la dimension financière et économique qui est derrière le NFT.
Au niveau du rapport aux fans, est-ce que vous avez des exemples précis de ce qui a pu être offert ou du moins mis en vente par rapport au sport et surtout qui est le public? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a encore plus de monde qui achète des maillots de Benzema au Real Madrid ou la casquette de McLaren qu'un NFT lié à l'écurie ou au Real Madrid.
Quand je vous disais tout à l'heure, il y avait l'exemple de la F1. En fait, ce qui a été vu et qui était connu, c'était les casques en fait de chaque pilote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été faits avec les pilotes. Et donc, faut le voir aussi un peu comme imaginez les collections de cartes de baseball, les cartes Pokémon. À chaque fois, ce sont des éditions limitées. On va sortir 1000 ou 5000 NFT numérotés et c'est uniquement les 5000 premières personnes qui auront accès à ces NFT qui les auront. Donc il y a un côté vraiment collection. Il y a des gens, ils viennent là-dessus comme quand tu collectionnes des skins en jeu vidéo.
Pour Paris 2024, normalement il restera encore un tout petit peu d'or pour faire les médailles, mais on peut s'imaginer que pour les JO 2038 ce sera des médailles NFT, c'est-à-dire que sur le podium il n'y aura plus de médailles physiques, mais on offrira peut-être une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze en NFT aux athlètes.
Effectivement, il y a un côté décorrélé de la ressource physique. Donc, on peut imaginer créer de la valeur en quantité limitée, avec, ben, comme on a pu voir, les dérives que ça peut permettre. Mais ça permet aussi de rapprocher des gens d'un objet qui n'existe pas.
Merci Gabi Bolivar, médiateur numérique à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je pense qu'on va reparler très prochainement des NFT dans le futur. Vibration.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado,
ooh, a tornado
in my city,
in my city.
In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving.
A
red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em,
hey.
Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Too hot to think straight,
too
cold to panic,
cold to
You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Take it to the floor now. To the flow now. Shoot. Come take it to the flow now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots.
Sonogenic, photogenic, shoot.
Vibration.
Our love is alive.